CJSO 101.7 Tête première. Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Tête première. L'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour, ici Denis Marion. Je suis très heureux cette semaine encore de vous accueillir pour une nouvelle édition de Tête première, qui est une émission d'affaires publiques sur les ondes de CJSO 101.7. Écoutez, avec mes invités à chaque semaine, j'essaie de couvrir différents aspects de notre actualité régionale. Au fur et à mesure qu'on traite des sujets, je réalise que j'ai de plus en plus de questions puis de plus en plus de choses qui m'intéressent. J'espère que c'est la même chose pour vous puis que vous appréciez les efforts qu'on fait là, pour essayer de vous présenter tous ces acteurs-là qui ont des impacts importants dans le développement de la région. Écoutez, pour aujourd'hui, commençons par dire qu'il y a pas mal une conviction partagée sur le fait que l'époque dans laquelle on vit traverse un moment charnière. On parle de transition écologique, on parle de transition numérique, on parle de transition démographique. Une époque qui amène des changements, mais qui en exige autant, qui exige des regards neufs, qui exige des actions peut-être un peu osées aussi de la part des dirigeants, mais aussi de la part des dirigeants politiques, je veux dire, mais aussi de la part des entreprises. Donc, on traverse une période où ça prend des décisions. Ce que je vous disais sur les transitions, c'est lié évidemment au changement climatique, à une révolution technologique, à la pénurie de la main-d'œuvre. C'est des gros, gros défis pour les entreprises et c'est des défis aussi pour les organismes de développement qui accompagnent les entreprises dans leur transformation. Puis regardez juste au Québec de façon générale, pensez à l'importance que prend la filière batterie pour le gouvernement actuel. Bien, dans notre région aussi, il se passe des affaires, puis aujourd'hui, on va en parler avec des entrepreneurs qui ont choisi d'innover en investissant des sommes importantes dans l'automatisation ou dans la numérisation. Fait qu'on va essayer de faire, on va essayer de démêler ça aujourd'hui avec des gens qui vont nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer dans les entreprises de la région. Alors, notre économie vit-elle un tournant qui va vraiment changer les choses? Aujourd'hui, on parle de la quatrième révolution industrielle. J'adore ça, dire ça de même. Ça fait gros, là, mais vous allez voir, c'est du quotidien pour les gens avec qui on est aujourd'hui. On fait une pause publicitaire, puis je vous présente mes invités au retour. Merci d'être là, de l'autre côté de la pause.
Noah de Val-d'Or écrit « Cher Canadian Tire, ma maison a grand besoin d'amour et mon coffre à outils aussi. Des suggestions? » Quand on a les bons outils, ça fait toute la différence. C'est pourquoi Canadian Tire a une vaste sélection d'outils de marque comme Mastercraft, Maximum, DeWalt, Bosch et Stanley. Obtenez tout ce qu'il vous faut pour l'entretien de la maison à notre magasin. Et cette semaine, les membres récompenses Triangle obtiennent 10 fois l'argent Canadian Tire en prime sur les douilles et les clés. Achat admissible, des conditions s'appliquent. Détails à canadiantire.ca ou dans la circulaire.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans. Pour l'occasion, vous êtes invité à participer au concours de notre famille à la vôtre. Vous pourriez gagner un repas pour 8 personnes au restaurant Le Fougas, une valeur de 750 $. Participez jusqu'au 29 novembre en remplissant le formulaire en ligne à meublesbeaulieu.ca. De notre famille à la vôtre pour célébrer les 50 ans de Meubles André Beaulieu.
Contact Affaires.
Le magazine Contact Affaires est présentement distribué par la Poste à toutes les entreprises de la région. À la une, le retour de l'industrie navale à Sorel-Tracy, la place de la région dans la stratégie nationale de construction navale et entrevue avec 10 femmes d'affaires d'ici. Vous pouvez consulter le magazine sur cournoyerpublications.cc. Contact Affaires, des reportages branchés sur notre communauté économique. Édité depuis 1999 par Cournoyer Publications.
Salut tout le monde, c'est Danny Turcotte. Né rouge, 40 ans cette année. Et pour bien faire ma job de porte-parole, je lui ai organisé un gros party surprise. Vous êtes tous invités, soit pour être bénévoles ou pour utiliser le service de raccompagnement. Fait que si vous n'êtes pas en état de chauffer ou que ça vous tente d'aider, juste à nous appeler au 1-866-DESJARDINS. L'invitation est lancée! Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Tête première! Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on est de retour. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à David Place, d'abord, qui est le directeur général de développement économique, Pierre de Sorel. Bonjour, David.
Bonjour, Denis.
On entend parler de toi très régulièrement dans les médias régionaux parce qu'il se passe bien des affaires. C'est un des sujets sur lesquels vous travaillez. Fait qu'on va approfondir ça avec toi aujourd'hui.
Avec plaisir.
Il y a également Maxime Lesiège, qui est un des copropriétaires d'Acier Régifab.
Bonjour, bonjour, Denis. Maxime. Merci de l'invitation.
Bienvenue. Très heureux. Là, on est plus dans le secteur industriel.
Exact. Atelier de fabrication de pièces mécano-soudées à Saint-Joseph-de-Sorel.
Excellent. Et là, on change de domaine complètement avec Jimmy Labrie au coin, qui, lui, est à la ferme Calixa à Saint-Victoire-de-Sorel. Bonjour, Jimmy.
Bonjour, Denis. Merci de l'invitation.
Alors là, on va parler d'industrie, on va parler d'agriculture, puis on va se poser la question sur... La numérisation, comment est-ce que tout ça a un impact sur ce que vous produisez, ce que vous réussissez, puis votre avenir aussi. Vous savez, une entreprise, ça évolue dans un contexte spécifique et ça doit tenir compte de ce qui se passe autour. David, c'est quoi le grand défi de la numérisation actuellement quand on regarde justement le fait que nos entreprises font partie d'une chaîne d'entreprises qui dépasse largement la région?
Oui. Bien, Denis, d'abord, j'aimerais souligner quelque chose d'important. On réunit autour de la table aujourd'hui les deux secteurs les plus importants au niveau économique de la région, soit la métallurgie et l'agriculture. Donc ça, je suis assez fier de ça. L'agroalimentaire occupe une bonne part de la place en développement, en économie locale. Donc, chapeau pour ça de réunir nos deux plus grands secteurs. Maintenant, la numérisation, ce que c'est, bien, c'est d'adapter nos systèmes informatiques à la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est pas plus compliqué que ça. On parle...
OK.
c'est beaucoup de termes anglophones. C'est malheureux, là, on en parlait en préparation, il va falloir énormément vulgariser, là. Mais le terme anglophone, là, le plus populaire, si on veut, en numérisation, c'est faire du fameux EDI, en français, des échanges EDI. C'est-à-dire qu'un acheteur qui préparait une commande s'enverrait automatiquement, électroniquement, chez le fournisseur qui, lui, aurait probablement un robot pour préparer la commande. Bon, tout ça, c'est difficile à expliquer, ça n'a pas l'air concret, mais ce l'est. Et pour des entreprises, que ce soit en métallurgie ou de la grande entreprise, avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, on peut également automatiser nos tâches de bureau, et c'est ça qu'on vise à faire avec la numérisation.
On est dans des défis un peu techniques, fait qu'on va se tourner vers nos entrepreneurs, puis on va essayer de voir ce que ça signifie pour eux autres au quotidien. Chez Acier Digifab, Maxime, vous avez entrepris une démarche de numérisation, ça veut dire que vous avez commencé à vivre... comment je pourrais dire ça, dans le virtuel,
ouais, exact.
Quelque part. Mais où est-ce que ça se situe?
Bon, à partir que j'ai rencontré David, David, on se connaît de longue date, m'a réouvert l'esprit, parce qu'on est, on, dans notre industrie, on est souvent fermé à se dire, ben un robot ne peut pas faire notre job, qu'est-ce qu'on a en place, ça fait, puis ça va, notre quotidien va vite, puis on a aussi notre zone de confort, on a de la misère de la sortir de dedans. Par contre, je pense qu'il faut rester à l'affût de tout. C'est pas vrai qu'il y avait rien à nous proposer il y a 4 ans, puis aujourd'hui, c'est encore rien. Ça évolue vite. Il faut rester. Puis je pense que ta question c'était plus où constitue dans la numérisation. On a coché que robot pour le moment, on n'est pas là. On est beaucoup dans le custom, nous autres chez Régifab. Fait que custom étant, désolé pour le terme anglais, mais des pièces vraiment sur mesure. Pas un
avec
travail à la chaîne.
Sur mesure.
Exact. Par contre, tout le volet numérisation, on est encore beaucoup papier chez nous. Dans notre domaine, on marche encore avec des plans papier, tous les documents. D'avoir ça stocké, nos clients nous demandent de garder toutes nos preuves de. Une politique qualité, tout
traçabilité
ça.
Traçabilité du matériel quand tu fabriques tes pièces.
On n'est pas gearé pour ça aujourd'hui. Là. Fait que c'est de nous emmener là, puis il faut rester ouvert pour ça.
Maxime, vous faites quoi dans le quotidien chez Acier Régifab?
Dans une PME, on fait un peu de tout. Hein, à part le ménage qui se fait de soir, là, mais on est appelé à tout faire. Fait que une équipe de direction. Mais
Le quotidien de l'entreprise, c'est quoi vous produisez?
Pièces. Nos clients principaux, on ne se le cachera pas dans la région, c'est ArcelorMittal, Rio Tinto.
Vous êtes dans la grande chaîne de la métallurgie.
On est un fournisseur de eux. On fabrique des morceaux métalliques, donc en acier ou en toutes les sortes de métaux. On n'ira pas dans les différents grades. Mais plusieurs épaisseurs, nous, on est bon quand c'est épais, pesant. On a des nos ateliers sont faits en conséquence qu'on est capable de manipuler des pièces assez imposantes.
Puis géographiquement, vous êtes situé à Saint-Joseph?
À Saint-Joseph, oui. On a deux emplacements. Un sur le terminal maritime, dans les anciens locaux. Là, on recule dans le temps, mais de Beloit, qui appartient aujourd'hui aux Forges. Et on a aussi nos locaux qui nous appartiennent là, sur Léon 13, près du cimetière à Saint-Joseph.
Je veux tout de suite poser une question, après ça j'y arrive avec Jimmy en agriculture, là. Mais c'est intéressant parce que tu dis, nous on est des fournisseurs d'ArcelorMittal puis de Rio Tinto, est-ce que de leur côté à eux, il y a comme des exigences que vous soyez numérisés, est-ce que ça aide votre rapport de fournisseur à client?
Je pense qu'il faut y arriver, on n'a pas une demande claire encore, mais si on ne suit pas, puis je pense que c'est le moment d'embarquer de là-dedans, il ne faut pas attendre la dernière minute, là.
Bon, on va revenir sur ça. On va revenir sur le moment. Là, c'est un très bon commentaire. Jimmy, de votre bord, il y a eu plusieurs articles dans les journaux de la région au sujet de la transformation que vous avez faite. Peut-être nous en parler un peu. C'est quand même des investissements de plusieurs millions de dollars que vous avez fait.
Oui, bien sûr. Ben, on est parti vraiment d'une étape attachée, si
on
veut dire.
Donc là, on parle de vaches, là.
Effectivement, une production laitière, on a de la grande culture, de la céréricole, mais moi, je suis plus responsable de la production laitière. Fait qu'on est vraiment parti d'une étape attachée où nos vaches étaient attachées avec des chaînes à une production style libre, qu'on appelle. Donc, tout le monde, les vaches peuvent marcher où qu'ils veulent. Puis là, ben, il fallait s'en aller dans une décision. Puis avec le manque de main-d'œuvre, nous, on a décidé de s'en aller vers la robotisation. Donc, deux robots de traite, trois robots de collecteurs qui ramassent le fumier dans nos allées, ainsi qu'un robot d'alimentation qui soigne 100% nos vaches.
Et donc, là, vous autres, on n'est pas tant dans la numérisation, malgré que je sais que vous avez, par exemple, je sais que tu as sur ton téléphone les résultats de la traite en direct.
Oui, effectivement.
Au fur et à mesure que les vaches montent au salon de traite. Là.
Exactement. Aussitôt qu'une vache sort du robot de traite, moi, je l'ai sur mon téléphone, je peux voir le nombre de litres qu'elle a donné, le taux de gras, et toutes les statistiques que j'ai de besoin à savoir que j'avais pas avant. Maintenant, je les ai avec la robotisation.
Moi, je suis fils. Petit-fils, arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-fils de producteurs agricoles dans le lait en particulier. Puis je sais pas pourquoi, je reconnais pas trop ce que moi j'ai vécu quand j'étais petit sur la ferme de mon père. On voit, je trouve que c'est intéressant de voir la différence entre ta façon à toi, que tu es plutôt jeune, d'imaginer ce que c'est de la production laitière en 2023 avec ce que ça a déjà été au Québec. C'est quand même assez hallucinant, là.
Bien, même moi, j'ai de la misère encore aujourd'hui. T'sais, on n'était pas aussi technologique. Même, on recule, ça fait un an qu'on est rendu en production laitière robotisée, en traite robotisée. T'sais, un an, on revient un an en arrière, puis on était du tout robotisé. On avait nos trailleuses qui se décrochaient automatiquement, c'est tout. Le reste, c'était tout manuel, on faisait tout à la main. Fait que même moi, ça a été une très grosse étape de franchir, de s'en aller dans la robotisation. Puis, tu sais, on parle, tu me demandes 5 ans en arrière si j'aurais été dans la robotisation, puis on parle de certains conforts que Maxime a pu nommer. Bien, moi, tout, j'avais mon confort. Je voyais toutes mes vaches tous les jours, le matin et le soir, je pouvais travailler avec eux autres. Là, je les laisse aller tout seuls, comme des grandes. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont
Parce que c'est même les vaches qui décident à quel moment elles vont se faire traire. Là.
Effectivement. C'est eux qui décident. Ils peuvent y aller 2 fois, ils peuvent y aller 5 fois par jour. C'est plus nous. Là. Nous, on fait juste gérer un petit peu en arrière de ça le troupeau pour s'assurer d'une certaine qualité.
Mais Jimmy, je peux pas m'empêcher là, de poser la question. Tu dis, il y a 5 ans, j'aurais même été surpris de savoir où je serais aujourd'hui. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi le déclic qui a fait où vous vous êtes dit, ça y est, on investit, on robotise notre étable?
Bien, comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment le manque de main-d'œuvre. Tu sais, les heures sur une ferme, c'est très difficile. Tu commences très tôt le matin, tu finis après le souper le soir souvent. Il n'y a pas beaucoup d'employés qui sont prêts à faire ce choix-là. Dans le temps, il y avait beaucoup de fermes laitières, des personnes qui vendaient leurs fermes. Après ça, on était capable de recruter. Mais aujourd'hui, il n'y a tellement plus de fermes laitières, puis c'est tellement rendu des grosses entreprises que faut aller trouver du monde, des citoyens qui viennent de la ville, mais les horaires sont pas. Ils ont un petit peu plus de difficultés à se joindre aux horaires que nous, on faisait. Fait qu'en s'en allant avec des robots, ben là, on a pu couper complètement nos employés puis aller vraiment au minimum. C'est vraiment le manque de main-d'œuvre qui nous a lancé dans la robotisation.
Maxime, de ton côté, est-ce qu'il y a beaucoup de gens chez vous qui travaillent numérisés? Là? C'est-à-dire, est-ce que ça touche beaucoup d'employés? Parce qu'évidemment, tu parlais tout à l'heure.
On a une équipe de bureau. C'est sûr que les autres sont au quotidien devant leur écran. Par contre, c'est beaucoup un travail manuel, on s'entend. Mais il y a quand même une partie en étant numérisé qui va aider ces gens-là là, dans l'équipe là, de l'équipe journalière, si on peut dire, les soudeurs, toute la chaîne, que ça parte de la coupe du matériel jusqu'au camionneur qui livre le morceau. Là. Il y a un bout qu'on va s'aider avec la numérisation.
T'as entendu Jimmy dire ça change notre quotidien, ça diminue les heures, ça nous permet d'être plus efficace avec moins de monde compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre. C'est-tu quelque chose qui existe chez vous?
Oui, puis tu sais, on part pas de rien. Là. On parle depuis tantôt, là, on a beaucoup papier. T'sais, on a déjà un système en place. C'est qu'il faut suivre la vague puis s'améliorer dans tout ça.
Est-ce que ça vous donne, tu sais, je reviens là, sur la question de tout à l'heure peut-être un peu, là, mais vous êtes dans une chaîne
d'approvisionnement.
Ouais. Vous êtes vous êtes des fournisseurs de grosses entreprises qui produisent également. Est-ce que ça vous permet d'être plus efficace, d'avoir cette numérisation-là?
C'est sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire en termes de productivité, par exemple? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez vu des avantages?
Mais en fait, de productivité, c'est surtout, sans rentrer dans tous les détails pour perdre du monde, là, un projet implique beaucoup de points d'arrêt, que ce soit de l'usinage, un traitement thermique. Déjà là, je pense que je rentre peut-être un peu trop dans les détails, mais chaque étape est cruciale dans le projet pour livrer à temps. Puis des fois, c'est d'avoir justement un système qui va nous aider à tout pogner en cours de route. Être sûr qu'on n'échappe pas une en bout de ligne qui a un gros impact sur la livraison. On l'a en place, mais c'est quand j'ai rencontré David, puis que je reste là, il m'a mis en contact avec Investissement Québec, le CRIC, on est avec Digifab sur un autre projet. Tu te rends compte qu'en peu de temps, il y a beaucoup de systèmes, ça a évolué. Moi, je me souviens d'une visite d'Investissement Québec, de là, 4-5 ans, qui était venu faire une visite dans l'usine. Il voulait nous aider à rentrer des robots. On n'était pas là. Ils ont fait deux coins de rue, rendu à la deuxième allée, ils ont viré de bord. On dit, je pense qu'on ne trouvera rien. Mais aujourd'hui, ces gens-là reviendraient avec d'autres produits. Ça a beaucoup évolué en peu de temps.
Même par rapport à l'offre, là, même par rapport à ce qui vous est offert.
On n'est pas rendu au robot, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, mais je pense qu'il y a beaucoup de produits qui peuvent nous aider, produits que ça soit informatisé ou... Tantôt, j'écoutais Jimmy, on est deux jeunes, on se regarde là, on est à peu près à même âge, mais on suit, moi personnellement, j'ai pas suivi la vague informatique et tout ce qui est sur le marché aujourd'hui.
Jimmy fait non de la tête aussi.
Ouais, moi non plus, j'ai beaucoup de difficultés.
Mais tu sais, c'était en bien s'entourant, tu sais, je recroise David, un addon comme ça, puis de rentrer, ils nous mettent en contact avec des gens. C'est le secret, c'est d'être bien entouré puis d'avoir du monde autour de nous autres qui nous aide dans ces situations-là.
Écoute, c'est génial parce que après la pause, on a une petite pause publicitaire, puis après la pause, on va revenir à David puis on va justement se poser la question, qu'est-ce que ça prend pour accompagner les entreprises dans le virage dont on parle depuis tout à l'heure, puis est-ce qu'on a les ressources dans la région pour vous accompagner? Fait qu'on poursuit avec David de l'autre côté de la pause publicitaire. Que voici?
C'est l'anniversaire d'un de vos proches. Les matins de semaine à 7h10, CJSO souligne ses événements tous spéciaux. Pour inscription, rendez-vous dans la section « C'est ta fête » du cjso.ca. Un élu chaque mois gagnera de beaux cadeaux.
Une présentation d'Azimut Diffusion, du Cinéma Saint-Laurent, de William G. Walter, saucissier, du Bistrot de Retraiteur, du comptoir d'Alexandrine, biscuiterie, pâtisserie française et de la pharmacie Jean Coutu-Tracy. Il y a plein de choses dont je veux vous parler dans Valérie l'après-midi. On parle bien sûr des artistes, de musique, on en écoute de l'excellent pour votre retour à la maison. On jase aussi de santé, de littérature et de vie au travail grâce à mes collaborateurs et on demeure bien informé avec Sylvain Rochon. On a Valérie Ferland. Je vous attends du lundi au jeudi, 15h30.
Chez Sport Expert, la folie des sports d'hiver bat son plein. Jusqu'à 40% de rabais sur une vaste sélection d'équipements en liquidation. Détails en magasin ou sur sportexpert.ca.
Tête première. Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud. De retour à Tête première avec Denis Larion.
Ah, écoutez, dans la période d'avant, là, vous avez entendu Maxime Lachaise d'Acier Régifab, puis Jimmy Labrie au coin de la ferme Calixa nous dire ce qu'ils ont traversé avec passion, puis c'était vraiment intéressant là, de vous écouter tous les deux. Puis Maxime finissait en disant « L'important, c'est qu'on soit bien entouré. » Fait que là, je me tourne vers David Place, qui est le directeur général de développement économique Pierre de Sorel. David, d'abord, la région, est-ce qu'elle est bien équipée pour accompagner ces entreprises-là qui ont besoin de se transformer? C'est quoi les outils que vous avez pour les accompagner?
C'est une très bonne question. Je te dirais, à mon arrivée en poste, là, il y a bientôt 2 ans, on n'avait rien. Et on a bâti là, avec les gens de la MRC, le conseil d'administration, tout ça, le programme qui s'appelle Entreprises innovantes. Donc, le conseil des maires de la MRC a accepté de mettre 200 000 à disposition des entrepreneurs. Puis ce qu'on fait avec cet argent-là, c'est qu'on va les rencontrer, on va sur le terrain. Maxime en a parlé. Puis on s'est entouré aussi. On s'est entouré du Digifab de Longueuil via Montérégie économique, un organisme pour lequel on siège évidemment de la grande région de la Montérégie. C'est un laboratoire là, qui est tout équipé en automatisation, numérisation, robotisation. On profite de leurs experts et on profite également de l'équipe d'Investissement Québec, CRIC. J'ajoute même que s'il faudrait amener des partenaires privés, aboutir un projet, là, on n'aura pas de gêne à le faire, là, puis à les amener dans le projet pour entourer nos entrepreneurs.
Bon, là, on voit là, que vous êtes là aujourd'hui, tout le monde. Vous ne vous demandez pas est-ce qu'il faut le faire, vous demandez comment on le fait.
Okay? Exactement.
Mais il faut quand même qu'on se pose, là, les gens qui nous écoutent, là, ils doivent se dire, OK, pourquoi qu'on est rendu là? Qu'est-ce qui se passe? Le 14 septembre dernier, il y a eu une conférence organisée par la Chambre de commerce que tu as animée, qui s'appelait « Comment devenir une entreprise innovante? » Vous aviez des invités intéressants là, qui ont... Tu as retenu quoi de cet événement-là qui était offert justement aux entreprises? Là?
Ouais.
C'était une plateforme pour en apprendre.
Ouais.
T'as appris quoi, toi, là?
Bien, la chose positive que je disais la semaine dernière, c'est qu'à l'époque où je travaillais dans la région, au privé, on avait essayé d'organiser la même conférence. On a vendu approximativement 38 billets. Puis il y a 32 personnes qui se sont présentées. Maxime a parlé tantôt d'une petite révolution puis du changement de cap. Même lui, il a eu la visite d'Investissement Québec, puis les gens ne pouvaient pas. Donc, c'était de développer aussi une culture. L'événement dont tu parles, on a eu au-dessus de 90 personnes. Donc, on sent que les gens sont engagés, qui ont soif de ça. La pénurie de main-d'œuvre amène beaucoup les gens à s'ouvrir aussi. Parce qu'on sait que le premier mythe à briser, c'est quand on robotise, personne ne perd son emploi. Ouais. Jimmy parlait tantôt des employés, c'est pas les robots qu'ils ont congédiés, il y en a juste pas d'employés. Donc, ce qu'on vise en premier, c'est maintenir nos emplois actuels. Parce que si on ne maintient pas nos emplois actuels, bien évidemment, c'est la pérennité de nos entreprises qui en dépend. Donc, le premier but de ça, c'est maintenir les emplois actuels en robotisant, automatisant. Puis on a des cas concrets sur le territoire où les entreprises récupèrent des employés qui mettent sur d'autres postes au lieu de procéder à de l'embauche.
Bien, David, il semble, hein, ce qu'on lit actuellement quand il y a des processus de numérisation, d'automatisation, de robotisation, là, il commence à y avoir suffisamment d'entreprises qui ont traversé ces étapes-là pour qu'on soit capable de tirer la conclusion que tu viens de tirer. C'est-à-dire que c'est pas une menace aux emplois, c'est pas une menace aux employés qui sont dans les entreprises, c'est au contraire un levier pour poursuivre la vie de l'entreprise, mais aussi pour, dans une certaine mesure, donner aux employés des compétences nouvelles, de rendre encore plus intéressants les jobs, etc. Est-ce que c'est le cas? Je vois Maxime.
Mais en fait, je ne voulais pas intervenir tantôt, mais oui, on fait tout ça pour garder les emplois, mais au-delà de ça, c'est de grossir et d'avoir plus d'employés. Tu sais, je pense, Jimmy, tu es à la même place que moi, mais tes robots, en bout de ligne, si ça va bien, puis tu vas peut-être grossir la ferme et d'avoir plus de vaches, puis... Fait que, tu sais, on est un peu à la même place, d'être mieux organisé, d'être mieux structuré. Moi, je vois juste du positif là-dedans.
Bien, j'aime beaucoup qu'on le présente comme ça parce que pendant des années, évidemment, malheureusement, on a eu l'impression que c'était une menace, l'automatisation, la numérisation. Et puis là, ce que vous dites, c'est d'abord, ça nous permet de joindre encore plus efficacement les chaînes d'approvisionnement pour ce qui est dans l'industrie. Puis ça nous permet d'imaginer... grossir, prendre de l'envergure sans nécessairement se retrouver avec des difficultés. Là. C'est-à-dire que ça permet de, de favoriser le développement. David, c'est quoi les besoins des entreprises? Quand vous regardez ce qu'ils ont besoin, là, c'est-tu du soutien financier, de l'information, de la formation, de la mobilisation? Quand tu regardes ce que les entreprises ont besoin pour être capables de traverser ces étapes-là, c'est quoi?
Tous les dossiers qu'on a sur le territoire, ça a commencé par une première rencontre, puis je l'ai dit à la conférence du 14, je le répète, ça a été de briser des mythes. Ce midi, on a deux exemples incroyables de mythes brisés. Le premier réflexe des entreprises, c'est souvent de dire « Ah, c'est pas pour chez nous ». Là, on a une entreprise qui fait du custom, de la grande, grande industrie, des pièces uniques à fabrication unique et qui prend le virage, qui va pouvoir maîtriser sa chaîne d'approvisionnement. On a une entreprise agricole à la campagne que, si j'ai bien compris, aussi fait l'Internet des objets, veut pas, parce que Jimmy est capable de monitorer ce qui se passe dans la ferme en temps réel. Donc, il y a clairement de l'Internet à Sainte-Victoire-de-Sorel dans
sûr.
Le rang. Hein? Fait que mythe déboulonné. Fait qu'on a été capable de le faire sur une ferme. Fait qu'il n'y a pas d'obstacle. On est capable de le faire sur des pièces en série. Un des gros mythes qui est véhiculé, c'est quand on fait des pièces en série, il n'y a pas de système informatique qui peut nous aider. C'est totalement faux. La vie est ailleurs, on a les technologies pour appuyer. Donc, je dirais, Denis, c'est conseiller un par un, puis les faire voir.
Adapter aux besoins de chacune des entreprises.
Puis un fait intéressant, là, je rentre dans le détail, mais un fait intéressant, Investissement Québec vient breveter les concepts. Donc, exemple, chez Maxime, il développerait un robot soudeur révolutionnaire, mais il serait breveté pour Maxime. Les gens, les ingénieurs n'ont pas le droit d'aller chez le voisin, puis d'aller implanter la même source. Le but, c'est de la productivité. Bien, on ne part pas avec la solution. On la fait personnaliser pour l'entreprise où est-ce qu'on va.
Est-ce que c'est un défi, l'apprentissage des technologies dans vos
entreprises?
Moi,
j'en parlais, je suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur. À la maison, là, j'aime ça le dire, mais mon fils de 11 ans, c'est pas mal lui qui règle tous les problèmes d'ordinateur, iPad, etc. Là. Fait que, mais malgré que je suis jeune, oui, c'est un défi. C'est un défi, puis tu sais, encore ce matin, j'avais une rencontre Teams avec le CRIC. Puis juste.
Attends un peu, le CRIC, c'est quoi
le
ça?
Le CRIC, c'est Investissement Québec, c'est la filiale qui nous aide là-dedans. Là.
Parfait.
Mais je viens s'énerve juste me brancher sur Teams à tous les fois. Là. Fait qu'on part de loin. Là. Mais malgré ça, j'embarque, puis tu sais, ils sont là pour nous aider. Là. Ils trouvent ça drôle quand je dis ça. Là.
Maxime, concrètement, tu fais partie des clients, entre guillemets, de David à Développement économique Pierre de Sorel. Qui t'a aidé? Es-tu capable d'identifier les partenaires qui font que tu t'es rendu là, votre entreprise?
Bien, comme j'ai dit, c'est un concours de circonstances. David, on a des amis communs, on s'est recroisés, lâché un coup de téléphone, ça s'est fait vite. Puis David a vraiment ouvert la porte. Je veux pas, en disant ça, j'espère que
mon agenda va exploser.
Ouais, exact. Là, non,
je pense que c'est ça qui vise.
Mais David. Pour de vrai, c'était notre point de rentrée, puis tout ouvert à partir de là. Puis, oui, c'est sûr qu'il faut que tu le mettes dans ton horreur. Et après ça, quand t'embarques dans cette. Avec le CRIC, qui est Investissement Québec, avec. Mais là, tu participes au. On est allé à
une conférence
à Boucherville ensemble, moi et David. Bon, en fait, on s'est pas appelé, on s'est croisés dans le stationnement. Mais je pense faut que tu ailles à ces affaires-là. Puis quand même, souvent, ils disent tu sors d'une conférence ou d'une formation avec 10 %. Bien, je suis parti de là avec 10 % plus brillant que je l'étais avant de rentrer. Puis j'étais encore. Tu sais, ça t'aide à rester dedans, là, dans le
mouvement.
Dans le mouvement, je cherchais le terme, merci. Ouais.
Puis concrètement, Denis, tous ces gens-là sont hyper terre-à-terre. Là. Je pense à Rémi du Digifab, il est arrivé chez Maxime en jeans, en T-shirt, puis
moi, ça
avec des souliers blancs.
À partant, là, j'avais peur qu'il arrive un peu... on a comme la figure d'un informaticien qui va venir te vendre, mais il est arrivé en T-shirt... pas sloppy, mais quasiment. Mais non, ça a super bien été.
C'est pas une équipe d'ingénieurs veston-cravate qui débarque puis qui impose des choses. Ça se fait en partenariat, en équipe, puis tout le monde est bien relax. Je pense que l'approche est la bonne.
Jimmy, de votre côté, ça a été une expérience différente. Qui est-ce qui vous a aidé à choisir, à voir un peu le plan que vous vouliez avoir pour les investissements?
Tu sais, dans le fond, quand on décide de faire une construction, on choisit une compagnie qui nous aide avec la construction de l'étable, puis eux, ils vont nous présenter un petit peu toutes les personnes qui vendent des systèmes de traite robotisés, vu que nous, on voulait aller en robotique, des personnes qui vendent des équipements.
Avais-tu vu d'autres étables robotisées avant qui t'ont inspiré ou qui
vous
ont inspiré?
Oui, avant la construction, là, ils nous invitent à visiter, puis on y va avec eux, puis on visite plusieurs installations. Il y en a qui peuvent aller en visiter jusqu'à 60, 75 avant de prendre la décision. J'étais un petit peu plus serré dans le temps. J'en ai peut-être visité 5 à 10. Mais tu sais, c'est sûr qu'on prend les conseils de tous les producteurs. Puis c'est vraiment important, de, quand on s'en va sur ces fermes, de prendre tous les conseils parce que tu sais, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Fait que c'était de l'apprentissage jour après jour. Puis c'était grandissant. Puis c'est ce qui m'a permis d'aller vers l'étape que j'ai éventuellement construite.
Ça m'amène à poser la question du réseautage. Tu sais, nos entreprises sont liées. Elles sont soit des clients chez vous, à la SADC, ce sont des membres de la Chambre de commerce.
Oui.
Est-ce que c'est important, ce partage d'informations-là, entre les entreprises?
Mon
Est-ce
Dieu.
Que ça, la mobilisation est plus facile?
Ben oui, absolument. Je pense que ça s'est passé publiquement le 14 septembre. Il y a eu une synergie incroyable entre Camille Salva de la fromagerie Bédouin et Émilie Lorrain de Chalifou. Puis le maillage d'entreprise, c'est ça que ça provoque. Là. Maintenant, des fois, je reçois des coups de téléphone. Penses-tu que telle entreprise me dépannerait pour telle raison? Puis le maillage, c'est ce qui va faire la force de notre région puis qu'on va se démarquer, là.
Est-ce qu'il y a une différence entre les grandes entreprises, entre le vécu des grandes entreprises puis ce que vivent les plus petites entreprises, les PME?
Oui, puis c'est une très bonne question que j'aime que tu poses, évidemment, les moyens financiers. Si on pense à une start-up qui développe en bas de 5 ans ou ceux qui ont des projets de changement d'actionnariat, le financement, tout ça, quand on vient appuyer ces projets-là, soit en les subventionnant ou le financement, bien, c'est sûr que ça aide. C'est surtout là la différence. Mais Maxime, avec le plan qu'il fait, va pouvoir suivre au niveau informatique en tout point la grande entreprise. Il n'y aura plus de différence, là. Quand il va placer une commande d'achat de plaques chez une grande entreprise mondiale, ça va se faire au niveau informatique, ils ne verront pas la différence. Puis quand il va recevoir les commandes de ses deux clients, ses deux groupes mondiaux, ils ne verront pas de différence non plus. Là. Il va être rendu à leur niveau. Là.
Est-ce que... je pense qu'il va falloir qu'on aborde, je ne sais pas si on va avoir le temps avant la prochaine pause là, publicitaire, mais tu sais, on voit qu'il y a un mouvement, là, pour reprendre le mot de tout à l'heure, il y a un mouvement, on voit que les entreprises regardent l'importance que ça a dans leur développement. Il doit y avoir des défis, il doit y avoir quand même des difficultés. On est aussi bien de les connaître, ces difficultés-là, oui. David?
Oui. Le premier, c'est la gestion du changement. Moi, quand j'ai parlé à Maxime en premier puis les autres entrepreneurs, c'est, s'il vous plaît, communiquer avec vos équipes. Ils ont vu des gens débarquer, ils ont vu des gens arriver. C'est des décisions importantes que vous prenez pour les entreprises. Ces gens-là se doivent d'être informés. De deux, les projets qui réussissent le mieux, c'est ceux où les gens de terrain sont impliqués. C'est pas l'équipe d'ingénierie qui va réussir le projet, puis c'est pas juste les gens de terrain, c'est un mix de l'ingénierie, des gens techniques et des gens du terrain. Roger, qui pèse sur le même piton depuis 20 ans, qui voit la même machine avec le même produit, il a probablement une méchante bonne idée de qu'est-ce qu'il fait, une bonne conscience professionnelle, puis c'est très positif de le consulter avant de déplacer le bouton. Là,
il y a plusieurs aspects là, qui valent la peine d'être nommés. Fait que de l'autre côté de la pause, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser la question si vous aviez des conseils à donner. Si vous avez vécu chacun votre expérience, peut-être vous faites une évaluation aussi de ce que vous avez traversé. Qu'est-ce que vous suggéreriez? Mon Dieu, j'aime la misère avec mon verbe, là, mais qu'est-ce qu'il faut suggérer? Quel conseil il faut donner à des gens qui, aujourd'hui, en nous écoutant, se disent « Oh, bonté divine, peut-être que moi, j'ai intérêt à regarder ce que ça veut dire si je veux être capable de passer au travers des 10 prochaines années. » Alors, on va s'arrêter dans quelques secondes pour une pause publicitaire, puis on jase de tout ça à nouveau après la pause.
CJSO en concentré.
C'est un jour chargé, mais c'est ce que j'aime. Je suis un gars qui a multiples intérêts dans la vie.
Quand tu es l'interviewé, tu ne sais pas du tout dans quelle direction ton vis-à-vis va aller.
C'est bien
plus stressant. Tu n'as pas pu te préparer autant.
Ça nous arrive des fois qu'on parle de d'autres choses, puis qu'on a bien du plaisir et que rien n'est organisé en ce sens.
Les meilleurs moments de toutes nos émissions.
Je t'ai sûrement pas dit « Je suis un excellent
CJSO en concentré. Les samedis, dimanche matin, 7h à CJSO. CJSO 101.7.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans. Pour l'occasion, vous êtes invité à participer au concours de notre famille à la vôtre. Vous pourriez gagner un repas pour 8 personnes au restaurant Le Fougas, une valeur de 750 $. Participez jusqu'au 29 novembre en remplissant le formulaire en ligne à meublesbeaulieu.ca. De notre famille à la vôtre pour célébrer les 50 ans de Meubles André Beaulieu.
Express Pub.
Portez-vous aussi le coquelicot, symbole de la promesse de ne jamais oublier ceux et celles qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Du 1er au 4 novembre, procurez-vous votre coquelicot et aidez à soutenir les vétérans et leurs familles. Les coquelicots sont disponibles dans plusieurs commerces de la région.
ce vendredi midi, à 2, c'est mieux. Au menu.
En direct de la Bouffe Tiffin, cette semaine, je reçois Étienne Drapeau qui vient nous présenter son nouveau livre. Venez nous voir.
CJSO.
Rendu au dîner, vous êtes affamé?
Dès lundi prochain, grâce à la belle équipe du bistrot Audrey Traiteur, vous pourriez remporter des boîtes à lunch gourmandes pour vous et pour vos collègues de travail.
À tous les jeudis, nous ferons des gagnants dans Valérie l'après-midi.
Bonne chance et bon appétit!
Tête première, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Larion.
Alors, écoutez, cette conversation-là est absolument passionnante parce qu'elle touche directement l'avenir des entreprises de la région, puis même l'avenir de l'économie de la région. Je suis avec David Place, qui est le directeur général de développement économique Pierre de Sorel, Maxime Lesiège, qui est copropriétaire chez Acier Régifab, puis Jimmy Labéry, au coin de la ferme Calixa à Sainte-Victoire de Sorel. Quand on s'est laissé avant la pause, je disais, on va vous demander des conseils, mais juste avant... J'aimerais ça qu'on revienne sur le défi de la gestion du changement. Je l'ai dit au tout début de l'émission, c'est que des grosses transitions qu'on va traverser actuellement, puis il y a peut-être un état d'esprit dans lequel on aurait intérêt à être pour ne pas rater notre coup. Est-ce que, David, quand tu parles au monde autour, est-ce que tu as l'impression que les gens sont rendus là à accepter qu'il y a des changements, puis qu'il va falloir qu'on modifie nos approches dans notre gestion des entreprises?
Bien, absolument, parce qu'on est rendu à plus que 10 dossiers. Donc, visiblement, les gens sont conscients. C'est important d'amener un autre partenaire qu'on n'a pas nommé, là, mais le CLE, le Centre local d'emploi, vient appuyer après financièrement la formation des employés qui auront bénéficié des changements, parce qu'on s'entend, c'est de l'optimisation, c'est pas une punition, hein, c'est pour que l'entreprise aille mieux. Mais on implique aussi ce partenaire-là qui vient appuyer la formation des gens, tout ça. Puis on peut épauler les entrepreneurs, là, justement, l'aborder, le fameux changement. Il y a des employés qui peuvent peut-être vivre un peu d'anxiété, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sur le bord de la retraite, qui voit arriver un outil informatique, ça sent moins confortable, mais il faut se dire la vérité, ça fait partie là, du projet quand on prend ces virages-là. Là.
Jimmy, l'agriculture, on l'a dit tout à l'heure, là, avec la façon dont tu nous présentes les choses, on voit bien que les choses ont changé. J'imagine que même dans les champs, les choses ont changé. On sait que vous êtes équipé de façon extrêmement moderne.
Tout autant moderne dans les champs que dans la production laitière. On n'a pas le choix, il faut suivre la vague. Si on ne suit pas la vague, on va stabiliser, puis éventuellement, ben Faut investir, il ne faut pas arrêter d'investir, parce que si on arrête d'investir, c'est la fin de la compagnie, c'est la fin de l'entreprise.
Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous avez fait des gros investissements, par exemple, à la ferme Calixa. On parle de plusieurs millions de dollars. Quand tu regardes devant toi, dans les prochaines années, c'est pas, vous n'êtes pas assis sous vos mains, là. Vous réfléchissez à d'autres étapes?
Faut toujours... là, on a investi beaucoup dans la production laitière dans la dernière année, mais tu sais... Si on n'investit pas dans la grande culture dans les prochaines années, ben ça ne marchera pas. Fait que, un coup qu'on va avoir réussi à rentabiliser un peu la production laitière avec les investissements qu'on a faits, ben, il va falloir, après ça, s'en aller dans la grande culture puis rentabiliser, puis de se développer encore plus dans la grande culture, parce que sinon, on suivra pas la vague, puis ça ne marchera pas. Fait que, quand on investit dans un, il faut investir dans l'autre, puis ça marche comme ça à tour de rôle.
Jimmy, tu as été président de la relève agricole
de la Montérégie-Est,
oui. Il y a pendant quelques années.
Oui.
Est-ce que parce que la relève, là, c'est évidemment les jeunes qui sont en agriculture, là, qui sont pas en volonté d'agriculture, qui sont dedans, là. C'est des jeunes entrepreneurs. C'est quoi l'état d'esprit actuel? As-tu l'impression que le monde est prêt à passer à une étape différente?
Le monde est prêt, mais faut être passionné dans l'agriculture. Puis c'est ce qu'on voit. Si tu es passionné puis que tu es prêt, tu vas investir puis tu vas t'en aller ailleurs puis tu vas développer ton entreprise. Si tu pas prêt et passionné, ben on met la clé dans la porte puis on s'en va travailler sur d'autres jobs. J'ai eu cette décision-là à prendre. Là, moi, on était à un stade où c'est soit qu'on ferme la production laitière puis que je m'en vais travailler en ville, ou soit que je me lance dans le projet puis que je décide de mon projet de vie, puis que je me lance dans le projet, puis qu'on s'en va là, puis que c'était ma décision, je l'ai eue, ça fait un an et demi, puis je m'en rappelle encore, puis c'était cette décision-là, puis moi, j'ai décidé de me lancer, puis ça, c'est une réussite pour l'instant.
Si imagine que devant toi, là, t'as un lot de jeunes producteurs agricoles, c'est quoi le conseil que tu leur donnes aujourd'hui, là, on est le 2 novembre 2023?
Faut que tu fonces. Tu sais, le nombre de personnes qui m'ont dit que tu devrais pas le faire, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Puis...
Pour vrai?
Oui, il y en a beaucoup qui
mais
me
ça,
l'ont
je
dit.
Je pense d'être entrepreneur, c'est que ce soit un domaine ou l'autre, c'est faut foncer. Excuse-moi, on me mentionnait de parler dans le micro, désolé. Pas habitué, on me sort de ma zone de confort. On en parlait tantôt, là, j'étais assez sorti.
C'est ça, il faut regarder devant puis regarder haut. Là.
Exact. Je pense que ça prend des... Être entrepreneur, c'est des rêves, hein? Fait que ça en prend, puis de là, justement, je regarde Jimmy, là, c'est des grosses décisions. Quand on parle de millions d'investissements, là, faut que ça marche après, là. C'est bien beau investir, mais faut que les vaches... faut que les vaches sortent, je sais pas comment on peut dire ça, mais faut que ça sorte de ta ferme.
Puis Maxime, t'es copropriétaire de l'entreprise. Quand t'as commencé tout ça... Est-ce que tu imaginais traverser des étapes comme celle-là, avoir à prendre ce type de décision-là?
Non, mais moi, je pense que c'était un rêve de jeunesse d'avoir quelque chose à moi. Puis je me suis lancé un peu là-dedans, les yeux fermés. C'est un concours de circonstances qui m'a amené avec des amis communs encore là, avec Yannick Mathieu, qui est notre président actuel. Il y avait déjà une vague que j'ai fait partie. On a connu des belles années, une progression... je dirais pas fulgurante, là, mais une bonne progression. Fait que, c'est... Mais au travers de tout ça, il y a des journées que ça va pas bien. Il y a des journées que les clients crient. Puis, il y a des journées que dans l'usine... Fait que, je pense qu'il faut être passionné. Tu as utilisé ça comme terme tantôt, Jimmy. Il faut être passionné pour être entrepreneur. Puis, il faut pas regarder trop en arrière, il faut regarder en avant.
Je vous écoute tous les deux en particulier, puis ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas passer non plus ces nuits à avoir peur.
Non. Si la moindre petite décision fait que tu dors pas, tu n'es peut-être pas dans le bon domaine.
Non, moi, je dors très bien, fait que je pense que je suis à ma place.
C'est bon, ça.
Excellent. David, cette semaine, on s'est parlé, toi et moi, du rôle du cégep dans la formation. Moi, je trouve que le cégep, c'est un outil, un levier absolument extraordinaire pour une région comme la nôtre. Là.
Oui.
Pourquoi tu as l'impression, toi, avec ce que tu vis, ce que tu, comme directeur général de DEPS, tu te considères que ce qui est important, c'est important ce qui se passe au cégep actuellement?
Parce que je rencontrais Jean-Philippe Hébert cette semaine, justement, tout ça. Puis mon ancien rôle m'amène à avoir collaboré avec le cégep. Puis le lien est super intéressant, Denis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas déconnectés, ils ne sont pas sur une autre planète. Les mêmes équipements qui sont utilisés en automatisation en usine, bien, ils forment les étudiants là-dessus. Puis là, je vais nommer deux manufacturiers. J'aime pas ça le faire, mais je vais le faire. Ils peuvent former les étudiants sur tout ce qui est Schneider électrique et sur tout ce qui est Rockwell Automation. Mais ça, c'est les bases installées chez Pratt & Whitney, chez ArcelorMittal, chez Rio Tinto. Et là, je pourrais continuer la liste. Vous comprendrez, je ne veux pas n'oublier ou fâcher personne. Mais les étudiants travaillent vraiment sur les équipements qu'ils vont rencontrer sur le terrain avec les manufacturiers de la vraie vie. Là. C'est pas un faux laboratoire jouet. Là.
Bien, en parlant du cégep, là, ce que ça nous amène à parler, c'est tout le monde a sa job à faire dans ce domaine-là. Okay? La région a réussi à atteindre ses objectifs de développement parce que tout le monde joue son rôle. Tu l'évoquais tout à l'heure, la MRC a décidé d'investir des fonds particuliers là-dedans.
Oui.
Le rôle du cégep, j'imagine qu'on pourrait parler du CFP aussi.
Oui, absolument. Centre de formation professionnelle. T'sais, on parle beaucoup du plan naval. Ils sont à l'écoute. Je rencontrais Benjamin Cournoyer récemment. Qu'est-ce que ça va prendre? Puis on est tôt dans le projet, mais quand ça va être le temps, oui, le CFP est à l'écoute. Tout le volet éducation va nous appuyer au bon moment. Puis ils vont acheter les équipements nécessaires. Là, je pense à Maxime, en soudure, quand tu engages des étudiants, je pense qu'ils sont quand même assez bien formés.
Oui, oui, puis le lien est bon avec le CFP. On était là hier pour recruter.
Hier?
Oui, il y avait un salon, je ne sais pas comment ils peuvent l'appeler, mais il y avait un salon sur place hier, puis on a jasé avec les profs, puis les profs demandent toujours, tu sais, c'est quoi, quel procédé. On parlait d'un paquet d'affaires, mais... Je sais pas si je peux l'annoncer, mais on parlait un peu de ça. Les autres, ils regardent pour s'équiper d'un robot parce qu'ils voient que ça s'en vient, puis ils veulent pas être en retard. Fait qu'ils veulent être prêts à former les étudiants de là-dessus.
Mais
là,
ça, c'est du vrai soutien, ça, là.
C'est du vrai soutien, oui, ouais, exact.
C'est concret.
Fait que, tu sais, de là, que je disais tantôt, que v'là 5 ans, on se disait, ben, il n'y a rien d'adapté pour nous autres, puis ça se fera pas, puis on est trop dans le... J'ai utilisé custom tantôt, un mot français, sur mesure. C'est plus ça, là. T'sais, même eux autres, il faut qu'ils s'équipent, qu'ils suivent, là, fait que... Non, c'est ça. Oui, pour répondre à la question, oui, sont à l'écoute puis adaptent leur cours en conséquence.
Est-ce qu'il y en a d'autres domaines qui nous vient pas à l'esprit nécessairement, mais où tu te dis, David, ce monde-là, ils sont essentiels pour être capables d'accompagner les entreprises?
Bien, évidemment, une chaîne d'approvisionnement, ça le dit, c'est une chaîne d'approvisionnement. Localement, on est quand même assez bien servi.
Là, une chaîne d'approvisionnement, là, ça veut dire que quand on produit quelque chose à la fin, il y a différentes étapes, il y a différentes entreprises qui produisent des bouts de ce qui va être produit à la toute fin.
Oui, exactement. On est quand même assez choyé dans le territoire. On a beaucoup de fournisseurs locaux. On a de la technologie qui est présente. Les gens peuvent répondre. Je veux pas les nommer, je veux blesser personne.
Non.
Mais tu sais, en automatisation, on a deux partenaires locaux assez forts. Là. Les deux majeurs, les deux leaders mondiaux, on les a chez nous à Sorel-Tracy. Puis ils ont des experts prêts à aller sur le terrain rencontrer nos entreprises. Là. Le privé a son rôle à jouer aussi, puis il joue bien.
Fait que dans le fond, là, si quelqu'un nous écoute puis est dans son usine actuellement, là, il peut se dire qu'il n'est pas tout seul. Il y a du monde qui sont prêts à répondre.
La seule personne qui peut bloquer son projet, c'est celle qui voit dans le miroir quand il se regarde. C'est la seule personne qui peut bloquer son projet.
Est-ce qu'en agriculture, vous avez du monde autour de vous, d'autres comme ça aussi, qui vous accompagne?
On a beaucoup de personnes, que ce soit pour les robots, que ce soit pour la nutrition des vaches. On est entouré de personnes pour nous aider parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être un expert dans tous les domaines non plus. On a besoin de soutien autour de nous pour permettre de perfectionner l'entreprise puis de devenir le plus rentable possible.
Êtes-vous optimiste quand vous regardez là sérieusement là avec les investissements que vous faites, ce qui s'en vient?
Optimiste, oui. Est-ce que j'ai peur? Oui aussi. C'est un peu tout. T'sais, c'est sûr, c'est on revient un peu. Là, ça marche comme ça. On va dire pourquoi changer ça? Là, ça fonctionne. T'sais, on a l'avantage nous autres qu'il y a deux nouveaux joueurs dans la direction qui sont arrivés de. Un de chez Rio, puis un de chez Mittal, fait qu'avec des idées neuves, des yeux neufs, ils voient les choses, fait que tu sais, ils les apportent. C'est toutes des affaires qu'on voyait quand même, mais qu'on se dit, ben, ça fait pareil, tu sais. Mais non, de se lancer là-dedans, ça fait peur, mais oui, on y va, puis il faut y aller.
Écoutez, je trouve ça absolument passionnant de vous entendre sur l'expérience très concrète que ça veut dire chez vous, là, parce que c'est votre quotidien, vous, là. Nous autres, on est là, on en parle pendant une heure, là, mais vous autres, vous le vivez à tous les moments.
On le vivait juste avant de s'en aller.
J'ai pas visité ton entreprise, Maxime, mais j'ai eu la chance d'aller Michel Aucoin, ton père,
oui,
qui m'a fait visiter la ferme, là. Je veux dire, moi, j'ai trippé complètement de voir ce que c'est concrètement, de ce que c'est devenu une exploitation de l'industrie laitière, là.
Mais quand je suis rentré dans l'étable robotisée la première fois, je suis le premier qui a été épanoui. Pourtant, je travaille dans la production laitière depuis que j'ai 12 ans sur la ferme familiale. Puis quand je suis rentré, j'étais ébahi, puis j'étais comme « wow ». Tu sais, « wow », c'est tellement grandiose, c'est tellement... On n'aurait jamais pu penser à ça, tu sais, que ça serait rendu là.
Chez vous.
Chez nous.
Oui, oui. Tout à fait. Écoutez, David, quand on regarde ça, on peut pas ne pas être un peu optimiste. Là. C'est quand même intéressant de voir que les entreprises embarquent dans ces changements-là, que les entreprises s'inscrivent dans l'air du temps.
Oui.
Parce que, est-ce que je me trompe si on dit on bouge pas, dans le fond, on recule, parce qu'il y en a d'autres ailleurs qui, eux autres, avancent?
C'est un très bon point. Tu sais, la BDC, il y a des chiffres clairs qui disent que si on n'investit pas, on recule. Puis, il y a des cas d'entreprises très, très réelles qui ont investi aucun argent en technologie dans les 10-15 dernières années, puis ils voient la valeur de leur entreprise chuter drastiquement. Là. Fait que c'est important de les faire, ces choix-là.
Puis c'est important qu'il y ait des organismes comme vous autres qui accompagnent ces entreprises-là. Écoutez, je vous remercie énormément. Merci d'avoir partagé ce que vous vivez, qui vont peut-être aider les gens à comprendre aussi ce qu'on est en train de traverser. Maxime Lesiège, copropriétaire d'Acier Rigifab, Jimmy Labrie au coin de la ferme Calixa à Sainte-Victoire de Sorel. Et David Place, évidemment, de directeur général de développement économique.
Merci de l'invitation, Denis.
Merci beaucoup.
Tu peux venir visiter quand tu veux. Tu vas trouver que c'est un petit peu plus poussiéreux qu'une ferme laitière, d'après moi.
Ben, au plaisir de se retrouver, tout le monde.
Les